Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le plaisir de vous inviter en partenariat avec la Fondation HSBC pour l'éducation à vous initier au plaisir du slam. Nous recevons en effet l'équipe de l'association Slam et compagnie, dont les actions sont soutenues par la Fondation HSBC pour l'éducation.
Mesdames et messieurs, je déclare la 8e scène de Grande Bouche, Petites Oreilles ouverte.
Canal Académie s'est aussi déplacé sur le terrain, à Stain, en région parisienne, pour vous permettre d'entrer dans l'ambiance du slam enseigné à de très très jeunes enfants dès le cours préparatoire.
Si j'étais un super-héros, je m'habillerais rouge et jaune et je volerais au-dessus de la plage. Je suis super titan. Ouais.
Si j'étais un super-héros, je serais un papa grand et gentil comme mon papa et je chanterais « Je suis super ananas ».
Je veux des jonquilles et j'exige du jasmin.
Voilà, vous pouvez l'applaudir, c'est pas facile. Allez-y, essayez un peu, tu dis la première phrase.
Je veux des jonquilles.
À vous.
Et j'exige du jasmin.
Vous allez constater que le slam s'adresse aux jeunes, mais de 7 à 77 ans, voire plus. L'exemple en est une grand-mère slameuse, Nicole Fernandez, alias Mouti, qui fait partie de Slam et Compagnie et qui est parmi nous, devant les micros de Canal Académie. Vous allez tout nous expliquer, Nicole. Pourquoi cet alias? On vous dit mamie slameuse. Pourquoi? Comment? Racontez-nous cette aventure.
Cette aventure a démarré il y a bien, bien longtemps. Effectivement, je m'appelle Nicole Fernandez de mon identité, mais on m'appelle Mouti. Ce sont mes petits-enfants. Je suis grand-mère 6 fois. Et mes petits-enfants m'appellent Mouti. Donc j'ai gardé ce surnom comme nom de slameuse, comme nom de scène de slameuse. Quant à mon vécu avec le slam, ben là il se produit dans une classe de cours préparatoire de Saint-Denis, avec la maîtresse qui est près de moi, et puis les autres intervenantes. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler l'écrit et l'oral avec les enfants. Je souhaitais mener un projet avec les enfants.
Mais vous aviez un petit-fils ou une petite-fille dans cette classe ou ça s'est fait de façon autre ?
Non, pas du tout. Je n'ai aucun membre de ma famille dans cette classe. Et en fait, comme ce projet me plaît énormément, il se répète d'année en année et je m'y trouve très très bien.
Mais vous étiez une grand-mère normale comme les autres.
Ah oui, tout à fait. Sauf que je ne fais pas de pâtisserie. Mais à part le fait que je ne fasse pas de pâtisserie, oui, je suis une grand-mère tout à fait normale.
Et comment on devient une grand-mère slameuse alors ?
Le plaisir des mots. Le plaisir des mots et puis le plaisir de communiquer. Parce qu'il y a plusieurs façons. Enfin, je pense que le plaisir des mots, il peut se vivre de différentes façons. On peut avoir le plaisir des mots en solitaire. Mais moi, j'avais envie de partager le plaisir des mots avec d'autres. Et avec les enfants, ben, ça se passe très très bien. L'envie de partager.
Justement, ce partage des mots, le slam. Si vous aviez une définition, vous, Nicole, du slam à nous confier, ce serait laquelle ?
Eh bien, c'est effectivement le partage. Je retiens ce mot, il m'est très très cher, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et c'est le partage parce que, bon là, dans nos ateliers, on propose bien sûr un certain travail, mais on reçoit beaucoup aussi. Donc voilà, il y a une osmose.
Nous allons donc découvrir en quoi consiste ce travail. Elisabeth Loisance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des écoles. Et vous êtes donc intervenue dans ce programme Slam et compagnie au sein de votre classe avec des élèves de cours préparatoires. Expliquez-nous.
Voilà. Alors en fait, moi j'ai rencontré Anne à Saint-Denis.
Oui, Anne Chenot, alias Ella Dilafé, fondatrice de Slam et compagnie, est initiatrice du projet Grande Bouche, Petites Oreilles. Anne Chenot qui est l'âme en quelque sorte de ce projet. Anne va nous rejoindre. Donc, cette rencontre avec Anne Chenot remonte à quand ?
Il y a 2 ans, Anne m'a proposé de faire un projet donc, dans ma classe, d'intervenir. Et donc, j'étais vraiment ravie. Moi aussi, c'est un projet qui est très très intéressant à mener dans une classe de CP, d'ailleurs enfin dans toutes les classes en général. Et donc le projet m'a beaucoup plu et on l'a recommencé cette année. Donc voilà, c'est un projet intéressant dans le sens où ça permet aux enfants de CP de rentrer dans l'écriture, la lecture et le dire, la parole, très facilement et avec énormément de plaisir.
Elisabeth Loisance, en tant que professeure de cette classe de CP, pourriez-vous nous décrire ce projet tel que vous l'avez vécu et tel que vous l'avez fait vivre à vos élèves ?
Alors, les intervenants viennent en classe, donc Nicole est venue, Anne également. Ils sont venus en classe 8 ou 9 fois. Ils viennent pendant 1h30, 2h. Et donc, le travail pendant une séance consiste à faire écrire les enfants, enfin leur faire dire ce qu'ils ont envie de dire et ensuite d'aller sur scène devant les autres pour exprimer, pour dire ce qu'ils ont inventé.
Oui, mais alors on pourrait dire que c'est quelque chose de basique. On le fait quand on dit « raconte-moi tes dernières vacances avec tes parents » ou « raconte-moi ton dernier goûter quand tu étais invité ». Les enfants racontent ça, mais il y a une différence avec le slam, non ?
Oui, il y a une différence avec le slam dans le sens où on travaille en fait autour de la poésie aussi. On ne part pas de textes qui sont déjà écrits, mais déjà il y a une préparation pour dire aux élèves ce que c'est le slam. Donc les slameuses qui sont là font un texte de slam déjà, donc entendent les rimes, entendent les rythmes, etc., la poésie. Et donc on essaye de les amener à écrire, à dire un texte poétique. C'est la différence avec... raconter un événement de tous les jours, voilà.
Tout à fait, donc il parle d'un modèle qui leur est donné de façon claire et de façon vivante par ces différentes intervenantes. Alors justement, à votre côté, Elisabeth Loisance, se trouve Mélène Dorville. Bonjour Mélène.
Bonjour.
Bonjour, alors vous êtes vous-même chanteuse, slameuse, avec un surnom, hein, un alias, Tortue Tordue. Alors racontez-nous, ça demande ça une petite explication.
Alors Tortue Tordue, ça vient de très loin, c'était quand j'étais au lycée, j'arrivais toujours en retard en cours, donc tout le monde m'appelait la Tortue. Et je m'amusais à dessiner une petite bande dessinée avec une tortue, il arrivait toujours des petites aventures comme ça, et c'était un jeu de mots facile en fait, il n'y avait qu'une seule lettre qui changeait entre le...
Tortue et tordue. Et vous êtes devenue Tortue Tordue. Alors, vous êtes chanteuse slameuse. Et si je vous demandais à vous une définition du slam, que me diriez-vous ?
Ben, je pourrais tout d'abord vous donner celle que plein de slameurs vous donneront, poésie urbaine. Mais ce qu'il faut garder essentiellement, c'est la poésie. Qu'elle soit urbaine ou académique, c'est la poésie, c'est donner l'envie d'écrire, aussi d'écouter. C'est pour ça que le slam est là.
La première fois, vous m'avez dit poésie rebelle ou urbaine ? Rebelle.
Ah, vous pouvez garder les deux si vous voulez, rebelle et urbaine, parce que de toute façon, à mon sens, tous les écrits sont rebelles.
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Mais celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent.
Comment intervenez-vous, Mélène, dans le programme mis en place par Slam et compagnie ?
Alors, j'interviens dans les ateliers d'écriture et j'anime aussi avec Ella ces ateliers. Donc, nous préparons des petits exercices et justement, c'est pour susciter l'envie de dire et d'écrire. Parce que nous travaillons avec des tout-petits, des CP qui commencent seulement à écrire. Donc, c'est comment se sentir à l'aise pour raconter les choses. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous intervenons.
Oui, vous étiez justement à Stein, en région parisienne, pour une démonstration de slam, et vous y étiez entouré de jeunes enfants de CP qui ont slamé ce jour-là.
Si j'étais un super-héros, je m'appellerais Super Loulou, je m'habillerais en rouge et jaune, jetterais les malades pour les faire mieux vivre. Par exemple, les mamies et les petits-enfants.
Dans ma valise, il y a du travail, tu sautes minement pour aller au Maroc, tes dents, tes frises, tes brosses à dents et des bouliches pour bien dormir Et dans ma valise, j'ai ramené Vifla et maman.
Ah, c'est mieux.
Dans ma valise, il y a de l'or, des bijoux et de l'argent. Il y a aussi des souvenirs de mon papy et de ma mamie. Merci, au revoir.
Le mercredi ou le samedi, ma grande vie est sombre et la semaine bien longue. Mais aux portes du bûcher, le mercredi ou le samedi, je retrouve ta crinière qui balaie les fougères. J'aime bien prendre soin de toi et galoper dans les bois avec des moniteurs sympas. Je découvre au rythme de tes pas l'attelage, l'hypnologie, mais aussi la voltige. Premier, deuxième, troisième galop. Voici des examens à mon niveau. Chaque semaine, le rêve devient réalité. Quand ensemble nous partons promener.
Bonbon a perdu Loulou en or. Paris est en or fait un sudoku. Loulou, tortue et... perdu dans un bassin. Le barracuda barbu, l'oreiller tordu. Barbie est barbu dans un bassin. Tortue tordue dort dans son oreiller magique. Tortue tordue a perdu son papillon en or.
Le plus important dans la vie, le plus important dans la vie, mon garçon, c'est l'air pour respirer, l'eau pure pour boire, la terre pour y marcher, c'est le temps de bien se remplir. Mon garçon, parfois l'air s'appelle liberté.
Anne Chenot, alias Ella Dilafée, fondatrice de Slam et Compagnie, initiatrice du projet Grande Bouche, Petites Oreilles, vous avez animé donc cet atelier Slam à Stain. Alors, racontez-nous.
Pendant 2 heures, on va faire des petits jeux qui vont nous permettre d'écrire des textes pour être à l'aise. 2 heures après, c'est magique, devant un micro pour pouvoir dire devant tout le monde. Et comme on est une scène slam réglo, chaque texte donnera droit à un verre de jus de fruits.
Tout le monde est prêt à s'amuser ? Alors, pour que tout le monde... Vous êtes beaucoup plus nombreux que nous, d'accord ? Nous allons animer l'atelier avec...
Mademoiselle Tortue Tordue pour vous servir.
Et Madame Ella Dilafée. Alors, au slam, ah super les amis du CE2, CM1. En fait, c'est pas il y a les gens qui sont devant et puis les autres qui sont assis, c'est tout le monde descend et venez tous avec nous. Voilà, sans tomber dans l'escalier, tranquillement. Et je vais vous expliquer, tout le monde, hein, les parents aussi, hein, les grands frères, les grandes sœurs, tout le monde. On va commencer par un atelier. Donc, je vous rappelle qu'on est aujourd'hui pour un événement qu'on appelle parents et enfants, enfants et adultes. Ça s'appelle Grande Bouche, Petites Oreilles. Et c'est une scène slam. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le slam ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit des textes et après, qu'est-ce qu'on fait ? On les dit en public. Donc, pour pouvoir être entendu au slam, il y a une personne qui parle et tous les autres qui écoutent. D'accord ? On appelle ça de la poésie. Ça veut dire que c'est une façon d'écrire, de décrire ou d'écrire la réalité. Ça, c'est pas forcément vrai, c'est des choses qui nous passent par la tête. C'est pas forcément en rime, comme les textes... à l'ancienne, c'est comme on veut. Et là, on va faire un atelier pour que tout le monde puisse, tout à l'heure à 4h30, dire un texte, s'il a envie. Et bien, on va écrire tous ensemble, à 59, un texte. Comme ça, on aura au moins un texte. On pourra dire 59 fois le même texte, de toute façon, ça ne sera pas la même chose. Et puis après, on va essayer d'en écrire avec nos enfants, avec notre voisin, ou tout seul, si on a envie. D'accord ? Des choses très simples, on fait avec vous la même chose que ce qu'on a fait dans la classe de CP. D'accord ? Et de toute façon... Même si on nous demandait de faire un atelier avec les académiciens, ben moi, je ferais la même chose. Je le fais en entreprise, je le fais avec des gens qui ont des tas de diplômes. Et ben ils ont tous aussi peur d'écrire et tous aussi peur d'être ridicules que nous autres ici. D'accord ?
Combien d'enfants sur scène ?
Ça va dépendre des inscriptions, mais en général, on tourne autour d'une quarantaine d'enfants et d'adultes, de slameurs et slameuses. Certains sont là pour la première fois. On est en général à un taux de 50% de nouveaux slameurs, ce qui est le taux le plus élevé de toutes les scènes de France et de Navarre. En général, c'est une quarantaine de personnes. On arrive à passer une quarantaine de personnes parce que les textes des enfants sont moins bavards que ceux des adultes.
On va faire des jeux de mots, d'accord ? Donc le jeu est très simple. Pour commencer, on va faire des mots qui finissent
par A.
Qui finissent par A. Est-ce que vous en connaissez ? Un mot qui finit par A. Non, qui commence, qui finisse.
Asthma.
D'accord. Alors, et là, vous êtes échauffés, il faut que vous disiez plus fort et pas tous ensemble. Alors.
Awa.
Ah non, il faut que ça finisse. Là, ça. Awa, t'as dit awa ou awa? Awa, oui, pardon, excuse-moi. Alors, essayez. Vous êtes très très nombreux, je ne peux pas crier tout le temps. Essayez de trouver, pas des prénoms, des noms communs.
Non, qui termine.
Papa.
Papa.
Maman. Panda.
Un panda. Très bien.
Alors, Anne Chenot, tout d'abord, quelle est votre implication dans l'association Slam et compagnie ?
Alors, mon implication est grande. C'est en fait moi qui l'ai créée. Je suis à l'initiative de Slam et compagnie et du projet Grande Bouche, Petites Oreilles. J'y travaille tous les jours. Et Grande Bouche, Petites Oreilles, c'est un projet qui est né de mon expérience personnelle avec ma fille, en fait, qui arrivait en dernière année de maternelle, voulait slammer. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je fais du slam, elle veut faire comme maman. Et en fait, non, parce que ses petits copains, copines aussi voulaient slammer. Et comme les scènes slam sont tard le soir, en général, c'est dans des bars et que les thématiques sont pas toujours forcément très intéressantes pour des jeunes enfants, j'ai eu envie de créer une scène slam particulièrement en direction des enfants, et aussi en disant que le slam était peut-être, c'était une expérience au début, un moyen de rentrer dans la lecture et l'écriture avec plaisir, quelque chose de moins, excusez-moi l'expression, mais de moins violent que l'école, de moins académique, parce que pour moi le slam c'est clairement écrire sur soi pour dire aux autres. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de faire... Travailler, j'aime pas trop le mot en fait. Moi je dis qu'on fait des jeux plus que des exercices et qu'on joue avec les mots et on partage le plaisir avec eux. Enfin la passion qu'on a nous pour les mots.
Le slam c'est un exercice à l'écrit et à l'oral. Nous en avons une audition à l'oral, mais c'est un exercice qui pourrait se contenter uniquement d'écrit.
Pour moi, non. Après, voilà, on n'est pas tous d'accord, parce qu'il y a des gens qui éditent des textes. Voilà. Le slam, clairement, c'est un texte. S'il n'y a pas de public pour t'écouter, t'es pas slameur. Mais par contre, si tu slames une fois dans une scène slam avec du public, t'es slameur. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. C'est pour ça que c'est difficile de donner une définition.
Alors, la vie de Mélène Dorville, alias Tortue Tordue, vous êtes d'accord sur cette définition du slam ?
Bah, en fait, plus il y a de participants, plus il y a de slameurs différents. Vous ne pourrez jamais entendre quelque chose de précis, de se dire le slam c'est ça en fait. Ça peut aller du, comme je vous ai dit tout à l'heure, chanteuse, slameuse. Moi à la base j'étais plus chanteuse, mais comme j'avais besoin d'avoir une approche avec la scène en fait, parce que toute seule c'était pas facile, je me suis dit ah ben je vais essayer de d'abord c'était transformer mes chansons en histoire, donc c'est devenu du slam puisqu'il y avait des gens pour m'écouter. Et maintenant, voilà, c'est pour ça que je fais un peu les deux, parce que je me sens à l'aise dans ces deux catégories, que ce soit dans le chant ou dans le slam. Et ça peut aller du conte à plein de choses différentes. C'est vraiment, plus il y a de slameurs, plus il y a de styles, plus il y a de plumes, quoi.
Alors, on avait commencé tout à l'heure avec Elisabeth Loisans, qui est professeure des écoles, à nous familiariser à l'exercice que vous proposiez, Anne Chenot, auprès des différentes classes de CP. Est-ce que vous pourriez nous définir un peu plus le projet tel que vous l'avez conçu ?
Donc le projet tel que je l'avais conçu, c'était dans un premier temps de créer une scène pour enfants avec des adultes. C'est comme ça qu'on l'a défini. Je ne l'ai pas écrit toute seule, ce projet. Moi, j'ai eu l'idée, mais entre une idée et un projet, il y a beaucoup de gens qui viennent mettre leurs pattes et il évolue parce qu'à chaque fois, bah, tous les ans, on fait un bilan, on se dit ah bah, ça, ça a mieux marché que l'année. Sur des choses qui ont l'air bêtes, hein, mais à quelle heure on le fait, quel jour de la semaine on le fait, ça a des incidences sur l'écoute des enfants. Et ça passe toujours par d'abord prendre conscience du corps, parce que ben, comédien, chanteur, slameur, notre outil, c'est notre corps. Et puis les enfants, à cet âge-là, ils ne sont pas toujours très bien... Où est leur main gauche, où est leur pied droit. Et puis de rigoler ensemble. C'est surtout ça qui est important. Moi, ce que je dis, mais en fait, que ce soit en CP, en grande section de maternelle ou avec des adultes, c'est toujours les mêmes exercices pratiquement. Et c'est de dire, ben voilà, pourquoi on n'ose pas parler ? Ben, parce qu'on a peur d'être ridicule, on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Ben là, on est tous ensemble, on va avoir l'air tous ridicules. Donc on fait des exercices, mine de rien quand même, d'articulation, on apprend à respirer, on apprend à porter la voix, des choses qui seront utiles pour moi toute leur vie. Et on commence par ça, et puis on commence à jouer avec les mots, à se dire tiens, qu'est-ce que c'est une rime ? Alors déjà de leur faire comprendre que c'est le son à la fin du mot ou au début du mot, ben, à cet âge-là, c'est pas si simple que ça.
Je m'appelle Tania. Mon surnom c'est Tarte. Micheline,
c'est ma mère.
C'est ma mère.
Voilà.
Du chocolat.
Attends. Non, non. C'est commence. Tu veux que maman elle commence?
Ma recette de gâteau magique. Du chocolat, 500 g de bisous, 100 g d'humour et de sourire. De sourire. 100 grammes, 200 grammes de tendresse, 300 grammes de poudre magique, 50 grammes de vanille, une pincée de gentilly et de ananas, une pincée de sel. Ma recette de gâteau volera dans le sel et donnera à manger aux enfants pauvres.
Ouais. D'accord.
Je m'appelle Ondine.
Chut. Vas-y.
Avant, j'étais une valise. Aujourd'hui, je suis une petite fille normale. Demain, je serai une fée magique.
Bravo. C'est un très joli programme.
C'est un très joli programme.
On m'entend plus là-dedans, ça ?
Ah oui, oui, tu as raison.
Voilà, ça y est. Alors, on l'applaudit très fort parce qu'elle arrive en cours de route. C'est sa première intervention. Est-ce que tu as un surnom, un blaze ou comment t'appelles-tu ?
Jade.
Jade. Très bien. On t'écoute.
Ma recette de la vie, c'est du bonheur de toute, à toute heure, de la magie pour la vie, des amis qui sourient et d'être ici.
Merci infiniment.
Et puis voilà, donc on parle un peu des rimes, on parle des assonances, on parle des homonymes, tout ça. Donc on leur donne les noms, on leur fait prendre un blaze, parce que notre surnom dans le slam et dans la culture hip-hop, on appelle ça un blaze. Mais tous les enfants qui ont fait grande bouche, petites oreilles savent que ça s'appelle un pseudonyme. Donc voilà, d'avoir des petits bouts de 5 ans qui disent qu'ils ont un pseudonyme, moi ça me fait beaucoup rire. Et puis à la fin, on leur apprend à dire ce qu'ils veulent. C'est que leurs histoires, des fois, elles n'ont ni queue ni tête. Mais si vraiment, pour nous, mais c'est là où est la poésie, souvent, vraiment, eh ben, ils se donnent du mal, ils apprennent leurs textes, souvent avec des élèves plus grands dans l'école, et ils apprennent à utiliser un micro, à se tenir droit devant 200 personnes. Et ben, je mets au défi beaucoup d'adultes de le faire, et je pense que... Être fier de ce qu'on a écrit pour le dire devant les autres et l'assumer, bah c'est déjà un sacré apprentissage dans la vie.
Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare. Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants, en avant sur leur temps.
Le slam, c'est quelque chose d'assez fort. C'est très difficile de le décrire. Moi, j'incite toujours les gens à venir sur les scènes slam parce que c'est avant tout un mouvement. C'est pas une forme artistique ou d'écriture ou de scansion. C'est un mouvement qui donne 3 minutes ou 5 minutes, ça dépend des régions, à chacun pour dire ce qu'il a envie, comme il a envie. Donc, y a des gens qui ont des choses très violentes à dire, d'autres très drôles, d'autres très tristes, d'autres qui vont s'amuser plutôt à faire des jeux de mots. Et moi, je travaillais dans la médiation culturelle avant de créer Slam et compagnie. J'ai travaillé pendant 10 ans à essayer de faire se rencontrer la culture et ce qu'on appelle très mochement, je trouve, le non-public, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas naturellement vers la culture. Et dans le slam, c'est naturel, tout le monde s'y croise. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui arrivent avec leur attaché-case en courant, qui sortent de leur travail, qui sont banquiers, qui sont profs, qui sortent de prison. Enfin, c'est hallucinant, c'est le seul endroit où moi j'ai vraiment vu une mixité et sociale et de génération. Avec Mouti, on s'est rencontrés parce qu'elle était slameuse. On était sur les mêmes scènes, parce qu'elle était au Café Culturel, donc la scène mythique de Grand Corps Malade qui malheureusement est fermée depuis. On s'est toutes les trois rencontrées en fait. Et que bah, quand je me suis dit j'ai envie d'aller dans les classes pour faire écrire les petits, il fallait bien qu'il y ait des mains pour écrire pour eux puisqu'ils ne savent pas écrire. Donc je me suis dit des gens qui sont passionnés de mots, ont un peu de temps libre, j'ai pensé à des personnes retraitées et évidemment passionnées de slam, c'était gagné parce qu'ils en savaient autant que moi sur le slam, ils avaient quelque chose à apporter de complémentaire forcément. Et voilà, moi c'est pour ça que j'adore ce mouvement et que j'essaie de faire en sorte que ça soit pas un effet de mode pour que ça continue.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Le slam effet de mode ?
Non, parce qu'en fait moi j'ai rencontré le slam avant la médiatisation autour de Grand Corps Malade. Pas très longtemps, un an avant, et je bassinais tout le monde en disant « il y a un truc formidable là-dedans, y compris tous mes collègues, etc. » Il y a eu une grande vague, la vague est redescendue, mais grosso modo, on se retrouve à ce qu'il y avait avant. C'est voilà. Pas forcément les mêmes.
Permettez-moi de dire, tant qu'il y aura des gens qui auront des choses à dire, le slam existera en fait.
Mais par exemple, quelle différence faites-vous entre la poésie, qu'elle soit en prose, en vers, et le slam? Alors, est-ce que ce n'est pas une technique soit vocale, soit musicale, avec une rythmique particulière?
Non, j'ai plutôt envie de dire, c'est selon l'envie de chacun et l'envie, en fait, de partager à chaque fois. C'est vraiment un virus. Moi, la première fois que j'ai dit mon texte en public, j'arrivais avec la voix chevrotante, j'avais peur, il y avait des gens qui me regardaient.
Oui, mais là, vous nous dites des choses, mais vous ne slamez pas.
Non, là,
donc,
je vous parle.
Quand vous voulez slammer, quand vous voulez nous dire les mêmes choses, mais en slamant, vous passez par une technique. Il y a une technique slam.
La technique se crée au fur et à mesure où on écrit. En fait, plus on a l'envie de partager, de dire les choses, et du coup, forcément, on va essayer de travailler des petites choses. C'est comme ça que j'ai envie de dire que l'expérience se construit et que ça peut donner une technique. C'est comme, par exemple, pour le hip-hop, la danse. Les gens dansaient dans la rue pour eux, comme ça, et c'est pas pour autant parce qu'ils n'étaient pas dans une académie, dans quelque chose de constitutionnel, que ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas professionnel, puisque maintenant ça a été reconnu.
Oui, oui, mais ils ont créé des figures hip-hop.
Des figures,
il y a des figures
c'est
hip-hop.
La création dans l'écriture, c'est pas la même. En fait, on peut pas tout contenir dans le milieu de dire la chose urbaine, le hip-hop. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus il y a de plumes, plus il y a de styles d'écriture. Et c'est selon l'envie de chacun et le partage qu'on arrive à se créer son propre style d'écriture, la façon de poser les mots, même si on veut utiliser le corps ou pas, ou de rester statique. C'est comme ça que... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est comme ça que les différences entre la diction et l'écrit de chacun se font.
Moi, j'allais dire, c'est un style qu'on se crée, qu'on travaille. Il n'y a pas de technique. En fait, c'est quand on va poser son premier texte, on va souvent avoir pompé un peu ce qu'on a aimé chez les uns, chez les autres. Et puis, petit à petit, on se crée son style. C'est des images. C'est comment essayer d'être compris ou pas. C'est parce que moi, au début, par exemple, j'avais très peur que les gens ne me comprennent pas. Maintenant, je m'en fiche complètement. Et j'ai l'impression que c'est là où les gens sont plus touchés. Parce que c'est plus sincère, ça vient plus du fond. Il n'y a pas vraiment... C'est une fois que les gens sont allés sur une scène, une fois, ils comprennent.
Il faut le voir vraiment, parce que le corps parle aussi. Quelquefois, on ne cherche pas à se dire « moi, je vais faire un effet comme ça ou comme ça ». C'est de la façon dont vous arrivez sur scène quelquefois, vous présentez vos textes et la personne qui vous écoute, elle dira bah, « j'aime bien telle personne parce qu'elle est comme ça », mais en fait, parfois, c'est le corps qui parle avec les mots qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on arrive à se dire bah, « celui-là, il a un style différent, il y a autre chose ».
C'est plutôt une émotion,
une
en
émotion.
Fait. Je ressens encore les émotions que j'avais au tout début quand j'allais au slam, quand souvent il y a des gens qui font leur premier texte, parce que ce qu'ils ont à dire est super important pour eux, et du coup ils nous envoient une émotion extrêmement forte. Moi j'ai été très émue par des textes, j'étais allée intervenir à Hong Kong, des textes en chinois, en cantonais, je ne comprenais pas ce qui se disait, mais je ressentais ce que les autres ressentaient, comment ils réagissaient. En anglais où je comprenais un mot sur deux, mais pareil, il y a une espèce, c'est terrible, mais il y a une espèce de communion qui se fait autour de l'amour des mots, c'est vrai, mais aussi autour de ce qui s'y dit. On n'a rien à gagner, on nous offre un verre, si on dit un texte, on nous offre un verre. Et encore, de moins en moins. Ça coûte rien, c'est gratuit, et on ne gagne rien. Et on se, excusez-moi l'expression, mais on se dessape quand même en général. Écrire et dire, il faut assumer quand même.
Elisabeth Loison, en tant que professeure des écoles, cet apport par rapport à ce projet, pour vous, qui l'avez vécu avec vos élèves, c'est donc le fait d'avoir des intervenants qui viennent de l'extérieur, peut-être déjà, une découverte, une nouvelle aventure à vivre pour vos élèves. Et alors, d'après ce que Anne Chenot vient de nous dire par rapport au slam, une prise de conscience qu'on peut, sans crainte, apporter une parole. Et que cette parole, ben de toute façon, par le slam, on peut l'apporter, quoi qu'on dise, de quelques gestes qu'on accompagne sa parole, on est en droit de la donner.
Oui, exactement. Justement, c'est vraiment impressionnant de voir les élèves. Parce que vous disiez tout à l'heure que les élèves, en fait, parlaient assez facilement en classe pour raconter un événement. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent pas. Et justement, le slam permet vraiment ça en classe. On le voit à la scène. Tout le monde prend la parole. Les élèves qui ne la prenaient pas, qui avaient peur de venir sur scène, enfin qui avaient peur de parler, qui n'ont pas confiance en eux, là, osent, viennent le dire et avec vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est un enrichissement énorme pour eux.
Mais comment l'interprétez-vous, cette chose-là, que dans une poésie normale, ils n'interviennent pas ou...
Si une poésie, ils peuvent la dire. C'est un autre travail, en fait, une poésie. Mais c'est parce que ce n'est pas leur texte, tout simplement. Ils vont pouvoir venir la dire, mais bon... Il ne se l'approprie pas. Donc voilà, il l'a dit simplement, ce n'est pas un travail forcément très agréable pour eux. Tandis que là, c'est leur texte.
Il y a une émulation entre eux qui jouent ?
Ah oui, 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 complètement. Enfin, c'est très important de pouvoir le dire devant ses camarades et qu'ils écoutent et qu'ils ne se moquent pas. Et même s'ils se moquent, passer au-delà de ça. Et puis simplement, je pense qu'ils l'ont amené d'une telle façon... Tellement simplement, en fait, que les enfants voient que cette prise de parole, c'est pas quelque chose de si énorme que ça, en fait.
Oui, alors Nicole Fernandez, d'après votre expérience.
Je reviens sur le plaisir. En fait, ce que j'en tire des séances où je suis allée dans ce cours préparatoire, c'est le plaisir qu'ont les enfants à participer. On y venait le lundi matin, certains étaient fatigués, d'autres amenaient en classe les problèmes de famille, n'étaient pas forcément disponibles. Et au cours de ces séances-là, à un moment donné, il y avait la détente et voilà, il y avait le plaisir. Non, c'était vraiment très, très enrichissant. Enfin, moi, les enfants m'ont énormément apporté. Énormément apporté. Il y a eu un réel échange. Et puis, je suis d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que pour le langage, pour l'apprentissage de la lecture, vous savez, on commençait effectivement par des échauffements du corps, mais aussi, il y avait ce fameux jeu du panier, où on mettait dans le panier ce qui rimait. Alors, si on décidait qu'on mettait dans le panier ce qui rimait en « i », en « a », en « o », enfin, bon, tous les sons que l'on pouvait apprendre au CP. On remplissait le panier avec ces mots, et ces mots apportaient d'autres jeux. On a aussi beaucoup travaillé les jeux surréalistes. Et voilà, on ne peut prendre que du plaisir. En fait, les enfants apprenaient en jouant.
Mélène Dorville, qu'est-ce que le slam, vous, sur un plan personnel, avec ce qu'on sait d'embûches, de difficultés, de problèmes de toutes sortes que la vie peut nous apporter, qu'est-ce que le slam vous a apporté à vous ?
Un espace de liberté, l'envie de partager, d'écouter les autres. Parce que, voilà, on va entendre des gens qui vont vous dire un texte, ça va vous toucher, ça ne va pas vous toucher, ça va vous rappeler des choses que vous avez vécues. ça va vous en rappeler d'autres. Et c'est une façon de préserver la mémoire, de la rendre vivante, en fait.
Justement, dans ce temple de la culture française où vous vous trouvez aujourd'hui, à l'Institut de France, Anne Chenot, vous jouez la carte de la défense de la langue française.
Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a participé l'année dernière, enfin cette année en 2011 et en 2012, on a bien l'intention de recommencer à la semaine de la francophonie. Et moi, je suis de ceux et celles qui pensent que la langue doit rester vivante en connaissant derrière pour pouvoir aller devant et que notamment, nous, on intervient sur Saint-Denis, sur le quartier de la gare. C'est un endroit où il y a un grand melting spot avec des enfants qui arrivent non francophones depuis pas si longtemps que ça, avec des parents qui ne parlent pas le français, qui ont donc en général se sentent pas très à l'aise avec l'école, les parents notamment. Et c'était aussi pour ça que moi je voulais faire ce projet dans ma ville à cet endroit-là. Une façon de s'approprier la langue française aussi et d'en avoir... même si j'ai un accent pas possible, même si je connais que trois mots, je passe quand même mon texte de là où je suis. Et les parents, on fait toujours soit un goûter, soit un petit déjeuner avec les parents à peu près à mi-parcours pour leur expliquer un peu ce qu'on fait parce que les enfants rentrent, ouais, j'ai fait du slam, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est. Il faut voir la fierté des enfants à dire leur texte devant leurs parents à ce moment-là. Et les parents qui ramènent les tontons, les tatas à la scène. Donc la scène, c'est en dehors de l'école, c'est dans un lieu de culture où ils passent devant tous les jours, mais ils n'y sont pas forcément rentrés. Et c'est une fierté qui est partagée par tout le monde et un amour de la langue qui est partagé par tout le monde. Enfin voilà, moi je pense que pour revenir sur la poésie, le slam, c'est de la poésie, mais quelle est la différence avec la poésie ? On peut slammer du Rimbaud, du Baudelaire à partir du moment où on a envie de le faire partager aux autres. On se l'approprie vraiment. C'est pas interdit. Dans la plupart des cas, les gens viennent avec des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes parce que c'est unique. Ça n'existe pas en France des endroits où on peut se la jouer artiste sans, entre guillemets, sans être professionnel. Moi, je faisais du théâtre, j'ai bien écrit une pièce de théâtre, mais j'ai jamais monté parce que c'est tellement compliqué. Là, t'écris un texte, tu vas à tel endroit, personne t'attend quand tu connais vite du monde, hop, tu dis ton texte. Si t'as pas envie de slammer pendant 3 mois, c'est pas grave, la porte elle est toujours ouverte. Tu retrouves des gens nouveaux. Par rapport à l'effet de mode, moi c'est vrai que comme je fais du slam toute la journée, je suis allée un peu moins sur les scènes que je n'allais au début. Mais je suis ravie de retourner sur une scène qui a lieu tous les lundis soirs au downtown, au métro Borkamp. Et de voir des nouvelles personnes avec des nouveaux textes, ça change, c'est plus les mêmes. Donc tant mieux, il y a d'autres gens qui se sont appropriés le slam et qui disent avec fierté qu'ils sont slameurs et slameuses. Et quand les enfants disent qu'ils sont slameurs et slameuses et qu'ils ont un blaze, moi j'adore. Je me dis, j'assure, on assure la suite, quoi.
Alors si je vous entends bien les unes et les autres, c'est donc se confier et confier aux autres quelque chose de très personnel, mais en passant par cet exercice du slam. Donc, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un passage par le slam pour s'exprimer soi-même et donner aux autres ce qu'on veut exprimer.
Alors après, ce n'est pas forcément hyper personnel sur les scènes slam. Il y a des gens... En fait, l'exercice, c'est d'écrire. Et écrire, quand on écrit, il y en a quelques-uns qui improvisent, mais pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on croit. La plupart des gens, ils viennent sur les scènes slam, ils croient parce qu'en fait... On apprend nos textes et on est dans une façon de le dire, on joue beaucoup avec le public, moi qui viens du théâtre. Les gens, on ne les voit pas. La lumière cache les gens. Et la première fois que je suis allée slammer, c'était au Café Culturel, il y avait des gens mais qui étaient plus près que vous là. Et ça fait un drôle d'effet. Maintenant, quand il m'arrive de slammer dans des salles de théâtre, je demande au régisseur de rallumer la lumière dans la salle pour voir les gens parce que j'ai l'impression que je vais tomber dans un trou noir. C'est quelque chose... qui fait qu'on est totalement... Parce que c'est dire devant, mais c'est aussi... Ça dure en général 3 heures, les scènes slam. C'est... toi, t'as 3 minutes, et t'as... Je suis pas très bonne en maths, mais ça fait 2h57 à écouter d'autres gens. Il y a des petites pauses, mais ça fait quand même 1 heure de texte non-stop avec des gens qui viennent avec des styles complètement différents. Moi, je trouve ça totalement surréaliste qu'on arrive à s'écouter comme ça pendant 3 heures d'affilée. Et on s'ennuie pas. On fatigue des fois, et c'est le fond, donc des gens qui vont dire des choses des fois personnelles qui vont nous toucher. Moi, j'avoue que c'est ces choses-là qui me touchent le plus. Mais après, je suis souvent impressionnée par des gens qui savent écrire comme moi, je ne sais pas le faire. C'est-à-dire avec une rythmique, avec des jeux de mots, avec 3 niveaux de compréhension par phrase, avec beaucoup de dextérité. On a chacun notre style.
Comment intervient HSBC dans le soutien de sa fondation ?
HSBC, la Fondation pour l'éducation d'HSBC, est intervenue très tôt dans le projet, puisqu'en fait, on a fait un premier épisode, un peu, on va dire, une maquette, avec pas beaucoup de sous, avec beaucoup de bénévolat, etc. Et dès le deuxième épisode, on a été soutenu très généreusement par la Fondation HSBC, y compris en nous invitant, en parlant avec vous de nous. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup parlé de notre projet. On était vraiment très étonnés parce qu'on est une toute petite association. Donc ça, c'est très clairement de l'argent qu'ils nous donnent pour pouvoir... c'est beaucoup de travail en coordination. Donc notamment, elles ne sont pas derrière le micro parce qu'elles sont très humbles et modestes. Mais il y a Isabelle et Élise qui s'occupent de toute la coordination, de toute la communication, de toute l'administration. Et puis nous, quand on intervient en classe, c'est vrai qu'entre la préparation, les interventions, les présentations, ça représente beaucoup de temps de travail. Et puis voilà, on a des beaux flyers, des belles affiches qui nous ont fait connaître. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec cette fondation, contrairement à d'autres financeurs, c'est qu'ils s'engagent sur 3 ans avec des financements qui sont dégressifs. C'est-à-dire qu'on sait dès la première année qu'il va falloir qu'on trouve d'autres financeurs pour pouvoir compléter notre projet. Donc nous, on a eu la chance, grâce à cette aide financière, de trouver d'autres financeurs, parce que ça a donné aussi un label de sérieux quelque part. Et le projet, en 2 ans, a explosé. Voilà, donc on verra plus tard si d'autres financeurs nous suivent, parce qu'on est toujours liés à ça.
Bon, alors moi, la question que je vais vous poser, c'est que ces pauvres enfants en CP, on leur donne le goût du slam, ils vont vouloir faire la même chose l'année suivante.
Oui, c'est ce que, oui. C'est ce que disaient les mamans. Ouais. Alors, à Saint-Denis, on a une scène régulière, en fait. On s'est associé avec le TGP, qui ont 3 moments consacrés au jeune public d'un festival qui s'appelle Et moi alors. Donc on fait 2 ou 3 fois dans l'année des scènes chez eux. Là, on a un nouveau lieu à Saint-Denis qui s'appelle le 6B, qui sont prêts aussi à nous suivre. Il y a le conservatoire, donc voilà, faut venir à Saint-Denis. Pour les enfants slameurs, mais voilà, Saint-Denis sera décidément la ville du slam.
Et l'éducation nationale a une oreille ouverte par rapport à votre projet ?
Une petite oreille.
Bon, alors c'est grande bouche, petites oreilles, voilà. Bon, ça rentre dans le projet, j'espère.
Sachant que le slam est rentré au programme de terminale quand même. Grand Corps Malade était depuis 1 ou 2 ans.
Oh bah écoutez, vous êtes au debout de la chaîne. Là.
Voilà,
il va falloir
exactement.
Faire quelque chose pour l'intermédiaire. Bon, merci à toutes les 4 d'être venues devant
merci
les micros
beaucoup.
De Canal Academy. Merci.
Merci.
Et à
merci.
Bientôt.
À bientôt. Bien. Thank you.